Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission à Tire-d'aile, l'émission de la LPO, Délégation Territoriale Aveyron. Et c'est Jean-Claude Issaly, bénévole et administrateur, pour vous servir. La dernière fois, nous avons entamé une revue de connaissances sur les cigognes et aujourd'hui, on va aborder la suite. Les cigognes sont des oiseaux très symboliques, très emblématiques. On les a tous connus sur, quand on était enfant, dans les dessins animés, dans les lectures, à l'école, etc. Ce sont des échassiers de grande taille, noirs et blancs. Quand je dis grande taille, ils peuvent faire 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur. Donc c'est quand même relativement imposant. Et très imposant aussi en vol, avec 1 mètre 80 d'envergure pour les plus grands. Et ce sont aussi des oiseaux symboliques de la migration qui sont de passage chez nous assez régulièrement. Je reviens sur la migration de ces oiseaux. Quand on parle d'oiseaux migrateurs, on pense souvent aux hirondelles, mais aussi souvent aux cigognes. Les cigognes blanches qui nichent en Europe occidentale migrent par le détroit de Gibraltar. Alors que les cigognes qui nichent en Europe orientale, c'est-à-dire plus à l'est, migrent par le Bosphore et contournent la Méditerranée par l'est en passant sur le Liban, l'Israël, etc. Où se fait la séparation entre les deux populations ? Donc la population orientale de l'ouest et la population occidentale de l'ouest et orientale de l'est. En fait, la ligne, elle démarre, je dirais, au nord de la mer Adriatique, c'est-à-dire en gros à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Et elle monte, je dirais, si on tire un trait droit vers le sud de la Suède, on a un peu la ligne de démarcation entre ces deux populations de cigognes, donc celle qui migre par l'ouest, par l'Espagne, et celle qui migre à l'est, par Israël. Les cigognes, elles ont une grosse aversion à voler au-dessus des mers. Donc elles n'aiment pas du tout voler au-dessus des mers parce qu'il n'y a pas de courant thermique montant, ascendant. Et du coup, il faut qu'elles battent des ailes et c'est fatigant pour elles. Donc, soit elles traversent l'Espagne, soit elles longent la côte espagnole et elles vont traverser à l'endroit le plus étroit, qui est le détroit de Gibraltar. Et l'endroit où il est le plus étroit, ça, il y a 16 km. Et donc, elles viennent le traverser à cet endroit-là. Mais les cigognes ne font pas leur migration d'une seule traite. Elles font des pauses tout le long de leur trajet à des endroits riches en nourriture. Et en France, les principaux lieux de stationnement sont la vallée du Rhin, la Camargue, les étangs du littoral languedocien, un peu pour la partie est, et pour la partie ouest, les marais charentais, les grands lacs un petit peu des Landes, je pensais à Arjusanx, à Pontonx, à la réserve de Bergusté, enfin au Barthes de la Dour, en gros. Et il est assez marrant de constater que ces sites deviennent petit à petit des zones d'hivernage de certaines cigognes. Donc là aussi, un signe de réchauffement climatique. Et puis, c'est aussi l'abondance de nourriture en certaines zones qui les pousse à ne pas migrer beaucoup plus bas. Les populations de cigognes étant très nombreuses dans le nord de l'Europe occidentale, Allemagne et Danemark, en fait, ces populations, elles entrent en France sur la partie nord-est, en descendant en diagonale vers le sud-ouest, pour se concentrer, je dirais, dans l'ouest des Pyrénées, où s'ajoutent les nicheurs de la partie ouest de la France. L'essentiel du flux migratoire donc passe par l'extrême ouest du Pays basque et continue droit vers Gibraltar en traversant l'Espagne par le centre du pays. Alors que toutes celles qui arrivent par la vallée du Rhin, le Languedoc, le Languedocien, suivent plus ou moins la côte dans le côté espagnol. On a donc de très gros rassemblements de cigognes, en fait, sur la pointe sud de l'Espagne. D'autant plus que parfois, elles attendent plusieurs jours avant de se lancer dans la traversée du détroit de Gibraltar, si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. Donc on peut avoir vraiment des milliers de cigognes qui sont sur le secteur de Gibraltar, de Tarifa, dans ces zones-là, en attendant de trouver les bonnes conditions pour traverser la Méditerranée. En 2018, 134 000 cigognes ont passé le détroit en partant de Tarifa. Côté africain, les cigognes longent les montagnes de la Talas et puis se dispersent sur un front qui va de la Mauritanie au Mali pour rejoindre un peu plus au sud les zones d'hivernage du sud du Mali, les zones d'hivernage du Niger, du Tchad, du Nigeria et même du Cameroun. Les cigognes quittent les lieux où elles ont niché à partir de mi-juillet et les passages se font jusqu'au mois de novembre. Le pic du passage étant en fin août-septembre. C'est le moment où on a le plus de chances de les voir passer chez nous. Les migrations ont lieu en groupe, pouvant regrouper parfois plusieurs centaines d'oiseaux. Bon, chez nous, c'est plus rare, hein, c'est plutôt des quelques dizaines ou des fois quelques unités, mais souvent quand même des groupes de 8, 10, 15. Les migrateurs privilégient le vol plané et cherchent à utiliser autant que possible les courants d'air ascendants, donc les courants d'air qui remontent, hein, qui montent vers le ciel, ce qui leur permet de prendre de l'altitude. Elles se font porter par cet air chaud et elles peuvent monter sans effort, sans battre des ailes. Quand elles sont à une hauteur suffisante, elles se laissent glisser vers le sud et elles planent jusqu'au courant chaud suivant. Ainsi de suite, donc elles arrivent en bord de Méditerranée, à l'endroit où elles veulent traverser. Quoi. Ces courants chauds donc, ne se constituent en mer, les cigognes évitent tant qu'elles le peuvent de se lancer au-dessus des mers. Elles ne le font vraiment que par obligation au dernier moment. À préciser aussi qu'elles ne volent pas en migration comme les grues ou les oies. Donc en Aveyron, le pic de passage, c'est plutôt au mois d'août. Voilà, et par groupe assez restreint le plus souvent. Mais elles s'arrêtent assez facilement dans nos prairies humides pour se nourrir. Les cigognes remontent dans leur territoire de reproduction de fin janvier à mi-mai. Elles font les mêmes trajets qu'à la descente. Hein. Et le pic du passage se situe sur le mois de mai en Aveyron, comme dans les départements limitrophes. Alors je rentre un petit peu plus sur la cigogne noire, donc l'espèce qui est un peu moins commune, mais qu'on peut voir quand même passer chez nous. Donc c'est aussi un échassier de grande taille, un peu plus petite que la cigogne blanche et nettement plus sombre. Donc la cigogne noire, elle est bicolore, elle est noire et blanche, mais elle a beaucoup plus de noir. Elle est bien reconnaissable quand on a la chance de pouvoir l'observer, car contrairement à sa cousine blanche, elle est beaucoup plus discrète. L'adulte est reconnaissable à son manteau noir, qui présente des reflets finement irisés de vert et de pourpre, alors que les jeunes sont tout bruns, fades, je dirais. Seul le dessous de la queue, le ventre et les aisselles, c'est-à-dire au départ des ailes, sont blancs. Les pattes sont rouge vif, le bec et le tour de l'œil rouge carmin. Donc le juvénile est beaucoup plus discret, beaucoup moins voyant. Le noir de l'adulte est remplacé par un brun terne. Le bec et les pattes sont rosâtres et l'œil sombre n'est pas vraiment mis en valeur. En vol, pas de problème non plus. Vu de dessous, le corps est noir à l'avant, blanc à l'arrière et les ailes toutes noires avec le départ des ailes un peu blanches donc, par le dessous. Alors que chez la cigogne blanche, le corps est tout blanc et les ailes bicolores, noires et blanches. Simplement, le noir, il n'est que sur les ailes chez la cigogne blanche. Leur voix. Alors, les cigognes blanches, je vous l'avais précisé, ne font que craqueter. Elles n'ont pas de corde vocale, enfin, n'ont pas de syrinx, qui est l'oiseau, l'organe pour émettre du chant. Alors que la cigogne noire, elle, par contre, elle peut émettre des sons. Elle donne de la voix essentiellement sur ses lieux de reproduction. Et donc, je vais vous faire écouter d'abord le craquettement. Donc là, on avait le craquettement de la cigogne blanche. On n'entend vraiment que du craquettement. Alors que sur la cigogne noire, elle émet aussi des sons qui ne sont pas très, très gracieux. Voilà, Donc les craquettes-man sont en fait morcelées de genre de petits bêlements, pas très agréables à l'oreille. Et ça, c'est surtout sur les lieux de reproduction, mais elles craquettent aussi. Voilà. Et là, donc, on vient d'écouter les cris de la cigogne noire. Donc, la cigogne blanche ne peut pas émettre du tout ce genre de cri, que ce soit le cri grave quand elle craquette ou que ce soit ce cri beaucoup plus aigu. Et donc, la cigogne noire, en fait, elle est très, très discrète et elle est pas muette puisqu'elle émet ses cris, mais c'est surtout en saison de reproduction et aux abords du nid qu'elle peut effectivement émettre ses petits cris. Alors, si on rentre sur l'alimentation, donc pour se nourrir, la cigogne noire recherche des petits vertébrés aquatiques dans les petites pièces d'eau et les petits cours d'eau à l'eau pure, et ceci principalement en forêt, dans les bois, ou en périphérie de massifs forestiers. Et elle essaye toujours au maximum de passer inaperçue. Elle n'apprécie pas les grands plans d'eau ni les grands cours d'eau qui sont fréquentés par l'homme et qui sont souvent pollués. Si c'est discret, donc les grands marais fermés, tranquilles, vraiment, cela peuvent l'intéresser. Elle est donc avant tout forestière et a donc besoin de milieux aquatiques pour se nourrir, et cela à basse altitude. La cigogne blanche, elle peut se nourrir sur des zones très sèches, des zones de steppe, puisqu'elle consomme aussi beaucoup d'insectes et de proies qui ne sont pas liés au milieu aquatique, alors que la cigogne noire, vraiment, elle va toujours rester dans les zones humides, voire les petites mares, les petits ruisseaux, même ceux qui sont vraiment dans une végétation assez épaisse en forêt. La cigogne noire est donc une prédatrice qui pêche avant tout des poissons, en particulier pour nourrir ses jeunes. En dehors de la période de nourrissage des jeunes, elle mange beaucoup plus de choses variées. Mais le spectre alimentaire est donc plus large et inclut d'autres petits vertébrés, des amphibiens, des reptiles, des petits mammifères aussi, mais aussi des arthropodes, des insectes, des petits crustacés. Elle peut même s'attaquer à des mollusques, des gastéropodes, donc des limaces, des escargots. Et les proies sont avalées toutes rondes, comme chez la cigogne blanche d'ailleurs, entières, en une fois. Celles qui sont destinées aux jeunes au nid sont stockées dans le jabot pour être régurgitées. Donc c'est régurgité sur le nid et les jeunes se nourrissent de ce qui est donc régurgité. Il faut savoir qu'un jeune qui est déjà un peu grand peut consommer de 400 à 500 grammes de nourriture par jour. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flame. Ma vie c'est comme au cinéma. Je me trompe et je recommence pas. Le film avance toujours sans moi. There's an orchestra in me, playing endlessly. I even hear it.
Tellement sûr de moi, je ferme les yeux, moi je sais. Beautiful music. Et moi je me perds dans le son.
young man.
Tu verras, je suis pas sûr de moi. Je ferme les yeux, mais j'avance pas.
There's an orchestra.
Après cet intermède musical, nous reprenons le cours de notre émission à tire d'aile, l'émission de la LPO Délégation Territoriale Aveyron. Donc je vous parle aujourd'hui donc des cigognes, et plus particulièrement maintenant donc de la cigogne noire. Donc la cigogne noire, pour se reproduire, donc elle a besoin de forêts, de futaies. Elle est arboricole. Elle recherche donc les vieux bois, les vieilles futaies, assez claires, qui autorise la construction d'un nid sur un arbre, donc où il y a un sous-bois quand même assez clair, où elle peut voler assez facilement. Son nid est constitué de branchages. Il est relativement plat, mais assez volumineux. Hein, donc elle peut faire plus de 1 mètre, 1 mètre 50 de diamètre. Il est posé au départ d'une grosse branche latérale, donc contre le tronc principal de l'arbre. Et en général, c'est un grand arbre. Chez nous, en France, elle apprécie beaucoup la vieille chênaie de plaine humide, où elle peut construire son nid et se nourrir. Elle installe donc généralement son nid dans les grandes zones boisées, à proximité de zones humides, et elle est très sensible aux dérangements. Donc c'est vrai que quand il y a des nids qui sont repérés, on essaie vraiment de piqueter le secteur, enfin de bien le protéger, pour qu'il n'y ait pas des dérangements qui feraient abandonner la couvaison ou l'élevage des jeunes. Donc ça c'est en France, elle niche dans les arbres. En revanche, il en va différemment plus au sud, en Espagne par exemple, et comme j'ai pu le voir souvent en Extrémadure. Là, elle recherche les milieux rupestres, c'est-à-dire les milieux de rochers, de falaises, pour construire son nid. Et donc on voit qu'il y a de très beaux nids qui sont carrément en pleine falaise, des fois à proximité de nids de vautours, c'est assez marrant à constater. Et donc là, elle fréquente souvent les petits cours d'eau pour se nourrir. Par contre, au niveau nourriture, c'est un peu comme en France. Le nid est tapissé de mousse, d'herbes et de feuilles mêlées avec de la terre. Donc, en Espagne, elle construit son nid sur un substrat rocheux, en falaise, mais elle amène aussi beaucoup de branches, de terre, d'herbes fines, de petites racines, etc. S'il n'y a pas de dérangement ou de compétition avec une autre espèce ou un autre problème, le nid il est réoccupé fidèlement d'année en année. Donc il y a des nids qui sont occupés depuis des dizaines d'années, absolument tous les ans par un couple. Voilà. Donc il y a vraiment un attachement au nid quand il n'y a pas de dérangement. La femelle pond en moyenne 3 à 4 œufs blancs, qu'elle incube dans 32 à 38 jours, avec l'aide du mâle, qui peut relier la femelle. Là, c'est, au niveau des durées, c'est comme la cigogne blanche. Les jeunes sont nourris par les deux parents, qui régurgitent la nourriture dans le nid. Et les jeunes sont volants et prêts à quitter le nid à l'âge de 65-70 jours. Donc un peu plus de 2 mois. Sa répartition, donc la cigogne noire elle est présente sur tout l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique, Europe, Asie, de l'Atlantique jusqu'à l'est de la Chine, essentiellement entre le 40e et le 60e degré de latitude nord. Les oiseaux hivernent en Afrique, au sud du Sahara. Ils hivernent aussi sur le sous-continent indien et dans le sud-est asiatique. Donc ça, ce sont pour tous les oiseaux qui nichent, je dirais, partie est de la Russie, et la Chine, et donc et tous ces pays donc, de l'est de l'ancien monde. En France, la cigogne noire est un oiseau nicheur rare. Elle a une population estimée à environ 80 couples. La population est en croissance très lente. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on considérait qu'il y avait 25 couples à peu près en France. Donc il y a eu effectivement, ça a doublé, mais ça va très très lentement. Elle se reproduit principalement dans le nord-est du pays, notamment en Bourgogne et dans les Ardennes. Mais elle est en expansion lente et limitée, mais vers le sud et vers l'ouest. On a actuellement donc à peu près 80 couples de recensés. Et donc avec 80 couples, c'est quand même un des oiseaux les plus rares de France. Et la répartition, elle est très lâche. On peut avoir un couple à un endroit et le couple le plus proche peut se retrouver à 40 ou 50 ou 100 km de là. Quoi. Et donc, pour prouver combien c'est lâche, en fait, les 80 couples, ils sont répartis sur un minimum de 27 départements. Donc, on a eu une colonisation aussi de la Normandie ces dernières années. Donc, il y a quelques couples qui se sont installés, donc nettement plus à l'ouest. Donc, chaque printemps, ces cigognes migrent d'Afrique vers les massifs forestiers français pour passer des bons jours chez nous et pour se reproduire chez nous. Et elles repartent donc après leur reproduction. Sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, la cigogne noire, elle est considérée comme en danger et elle est classée vulnérable en tant que migratrice par l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc c'est quand même une espèce très très rare et très très vulnérable. C'est pour ça qu'il y a quand même des mesures de protection qui sont assez fortes. Donc pour la migration de la cigogne noire, donc c'est le même processus que pour la cigogne blanche. Elle passe par Gibraltar pour aller hiverner au Sénégal, au sud de la Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Donc on ne connaît pas de cas de cigogne noire qui hiverne en France. Le passage post-nuptial, donc c'est-à-dire après la reproduction, se déroule de fin juillet à octobre, avec un pic fin août, début septembre, un peu comme la cigogne blanche. Mais chez nous, c'est vraiment en septembre qu'on peut en voir quelques-unes. Le passage prénuptial a lieu de fin février, donc prénuptial, c'est-à-dire avant de se reproduire, a lieu de fin février à fin mai. En Aveyron, c'est du 1er mars à fin avril que nous faisons quelques observations, souvent d'un oiseau seul, parfois de deux ou trois, exceptionnellement d'un petit peu plus. Il y a un réseau cigogne noire qui est organisé et piloté par l'Office national des forêts. Et ce réseau est piloté donc en collaboration étroite avec la LPO. Et il y a minimum une trentaine de nichées qui sont suivies chaque année. Voilà, je vous rappelle que toutes les émissions donc à Tire d'Aile sont accessibles en podcast. Et donc vous pouvez les réécouter en allant sur le site de CFM Radio. Et donc, recherchez émission. Et donc, quand vous avez trouvé émission, eh bien, vous allez retrouver à Tire d'Aile, donc avec la photo emblématique d'un macaremoine. Donc, ainsi s'achève cette émission sur la présentation des cigognes. Donc, voilà, je vous incite à ouvrir l'œil fin mai, début juin, fin août et septembre pour voir les cigognes passer. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de la LPO, Délégation Territoriale Aveyron.